Joyeuse fête sur France Bleu.
On a un mois pour se souhaiter la bonne année, alors c'est parti, bonne année Valérie.
Bonne année Corentine et bonne année évidemment à tous nos auditeurs, on leur souhaite tous les bonheurs du monde,
absolument.
Hein, franchement.
Bon, en 2010, hein, c'est reparti pour Planète Bleue, on va parler environnement chaque samedi ensemble.
Et 2010 quand même, disons-le dès le début, c'est l'année de la biodiversité, on en reparlera beaucoup bien sûr.
Avec plaisir, alors pour bien commencer l'année, on va d'abord revenir, et ça c'est toujours sympa, sur les grands moments de 2009, et on va le faire de manière pas vraiment classique, et ça grâce à notre invité.
Oui, notre invité c'est pas n'importe qui, c'est Marc Kravets. Il est journaliste, il a longtemps été grand reporter, excusez du peu, mais enfin il a quand même reçu également le prix Albert Londres, c'est une espèce de prix Nobel.
Je sais pas ce que c'est, mais ça en jette.
C'est une sorte de prix Nobel pour les journalistes en fait.
Alors depuis des années, il a posé ses valises à France Culture, où tous les matins en fait, il brosse le portrait d'une personnalité.
C'est exactement ça, mais le vendredi, c'est spécial, car ces personnalités, eh bien, elles ont plutôt 4 que 2 pattes.
D'accord.
Et pourquoi ? Parce que ce sont des animaux, bien sûr.
Et c'est avec ces héros à plumes et à poils que Marc Kravets repeigne pour nous l'année 2009. On va commencer avec un animal symbole, c'est le panda. Mais attention, hein, il y a panda et panda.
Ne pas oublier qu'il y a panda et panda. Et il y a deux animaux qui n'ont absolument rien en commun quand on les regarde, qui s'appellent tous les deux pandas. Un animal roux qui ressemble à une espèce de gros renard et de gros écureuil à la fois. Il y a une tête de renard et une queue d'écureuil.
C'est le symbole de Firefox d'ailleurs.
Le symbole de Firefox, le renard de feu. Ça c'est le panda du Népal. Il est d'ailleurs pas en très bonne forme, mais visiblement on s'intéresse pas beaucoup à lui. L'autre, c'est le panda par excellence, donc qui est le panda géant, le nounours noir et blanc quoi, que tout le monde connaît, qui est le symbole donc des espèces en voie de disparition, qui sert d'icône pour le WWF. Donc le monde entier le connaît. Cet animal qui a survécu alors à des millions d'années, on ne sait pas très bien comment, on sait simplement qu'il a tout fait à l'envers. Quoi. C'est-à-dire que les animaux en général s'adaptent à leur environnement, essayent de trouver ce qui leur permet le mieux de survivre et de se reproduire. Le panda a sélectionné sa nourriture de telle manière qu'il ne mange plus, en tout cas en liberté, qu'une seule espèce de bambou, lequel bambou d'ailleurs meurt globalement tous les 80 ans quand les bambous fleurissent. Belle nouvelle, sauf que ça signifie la fin des bambous et le panda est privé à ce moment-là de sa nourriture. Donc, ou il meurt sur place, ou il doit migrer. Il n'a plus tellement les moyens de migrer dans la Chine d'aujourd'hui, donc il disparaît. Et surtout, pour vous qui êtes très attentive à l'environnement et à la dépense énergétique. Alors là, on est face à un véritable désastre.
C'est-à-dire que pour vous êtes en train de me dire que ce n'est pas un écolo du tout, Monsieur Panda, finalement.
Non, c'est-à-dire que sa préférence pour le bambou le rend extrêmement vorace de bambou. Il lui en faut, en moyenne, on le sait par les pandas en captivité, 80 kilos par jour, dont il ne mange que les petites excroissances les plus tendres et les plus vertes. Il rejette tout le reste. Ce qui fait que pour arriver à être à peu près nourri, il doit consommer énormément de bambou. Il passe son temps et sa vie à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a même plus envie de se reproduire à la fin. La libido du panda est à peu près au point de congélation.
Donc cet animal très symbolique, on comprend très bien pourquoi vous l'avez choisi. Alors, il passe finalement du très gros au très petit, parce qu'il y a un autre animal qui a retenu votre intérêt. Là, il s'agit d'une grenouille. Alors, on précise quand même que les batraciens sont eux aussi en voie de disparition, d'ailleurs.
Alors, les batraciens sont globalement menacés. Il y a à peu près un tiers des batraciens connus qui ont déjà disparu par un champignon assez mystérieux qui ravage l'espèce. Alors, je me suis intéressé à plusieurs grenouilles, parce que tous les Français mangent des grenouilles, comme c'est connu. Et moi, pas. Il y a une grenouille très particulière. Alors, son nom savant, c'est Rheobatrachus silus.
Bravo.
Et en fait, on l'appelle la grenouille plate à incubation gastrique. Alors, elle a une caractéristique extrêmement particulière. Elle pond des œufs, évidemment. Ensuite, elle les avale. Et la gestation se passe dans son estomac. Et à la fin, il y a des images. Hein, on voit la grenouille qui crache ses petits... c'est pas des tétards, hein, des petites grenouilles comme ça qui lui sortent du bec. Ça fait un peu magique.
Ah oui,
c'est...
complètement.
Oui. Alors, cette grenouille intéressait énormément les savants et les chercheurs, notamment pour son intérêt médical, parce que pour pouvoir ainsi faire grandir les œufs, les tétards et les petits grenouillons dans son estomac, il faut qu'elle bloque toutes ses fonctions gastriques. Elle ne mange pas, elle ne boit pas pendant tout le temps de la gestation.
Quelle abnégation !
Ah oui, c'est formidable, c'est une très bonne mère. Et donc, ce qui intéressait notamment la recherche médicale, c'est qu'on s'est dit, il y a peut-être là une mécanique qui serait intéressante à pouvoir appliquer, par exemple dans le traitement des ulcères. Il y a juste un problème, c'est que le temps qu'on découvre cette grenouille et ses vertus, on a à peu près découvert la dernière vivante. il n'y a plus de grenouilles plates, incubation gastrique, Rheotrobatecus silus, dans la nature. Donc, adieu la recherche sur l'ulcère, il faudra trouver autre chose.
Ah ben, on en apprend des choses, Valérie. Moi, je pense que vous aussi, vous pourriez avoir le prix Albert Londres.
Hein. Oh, c'est adorable, mais c'est surtout, effectivement, Marc qui nous met en valeur des expériences comme ça et qui surtout nous explique pourquoi conserver la biodiversité, c'est pas seulement pour faire plaisir à notre âme d'enfant, peut-être, c'est aussi parce que ça nous est utile.
Planète Bleue, Valérie Barbe, Corentin Feltz sur France Bleu.
Allez, on se régale aujourd'hui, hein, parce que pour bien commencer 2010, on fait le bilan de l'année 2009 de façon assez originale avec le journaliste Marc Kravets, spécialiste de l'environnement, et il est entouré de ses nombreux amis, Valérie.
Et quels amis, parce qu'on a entendu l'histoire du panda, on vient d'entendre l'histoire de la grenouille, mais il n'a pas que ça dans sa besace, Marc Kravets. Il a aussi d'autres copains qui ont des poils, des plumes, des écailles, et là il s'agit en fait de trois personnes, on va le dire comme ça, qui ont besoin les unes des autres.
Alors écoutez, ça ne manque pas de piquant.
On va démarrer cette belle année avec une véritable fable écologique. Ça pourrait comme être une fable de La Fontaine. La girafe, la fourmi, l'acacia. Alors, on n'entrera pas dans les détails, c'est pas n'importe quelle acacia, c'est pas n'importe quelle fourmi. C'est la girafe africaine que l'on connaît. Et l'histoire est la suivante, je vous la résume très vite. Cette girafe se nourrit essentiellement des feuilles de l'acacia qu'elle adore. Voilà. Mais si la girafe mange trop de feuilles d'acacia, la défoliation aura raison de l'arbre. Mais l'acacia a un défenseur, une fourmi crématogastère, une fourmi très particulière, qui se loge dans les épines de l'acacia, qui fournissent un nectar qui lui permet de se nourrir. En échange donc du gîte et du couvert, la fourmi est au bout des petites branches où la girafe... La girafe a une langue très longue, c'est la langue la plus longue connue chez les mammifères. Et au moment où la girafe avale trop de feuilles, donc plonge sa langue plus loin, la fourmi à ce moment-là, qui est une fourmi qui pique et qui fait beaucoup de mal, dissuade la girafe d'agir. Premier épisode. Deuxième épisode, on s'est dit, bon, est-ce qu'on pourrait protéger les acacias des girafes?
Ce qui, oui, au fond, pourquoi pas finalement.
Pourquoi pas. Donc une équipe de chercheurs a isolé des acacias, les ont enclos de telle manière que la girafe ne puisse pas les atteindre. Résultat des courses, l'expérience évidemment se déroule sur un certain temps, l'acacia privée des girafes qui les dévorent meurt.
Oh mon Dieu, on
se dit pourquoi.
Bah oui, voilà, qu'est-ce qui
se passe. Alors voilà ce qui s'est passé. Tout simplement, si l'acacia n'est plus attaquée par la girafe, elle n'a plus besoin des fourmis. Donc elle ne leur fournit plus ni le gîte ni le couvert. Et les fourmis, qui non seulement les protégeaient de la girafe, mais aussi d'autres insectes xylophages qui, elles, bouffent le bois de l'acacia, les fourmis vont évidemment se faire voir ailleurs puisqu'elles ne sont plus ni nourries ni logées. Et puisque les fourmis ne sont plus là, les insectes, eux, qui ravagent l'acacia, le détruisent. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait conserver tout simplement ce que la nature a fabriqué avec des milliers d'années. C'est ce trio, finalement assez réussi, de la girafe, de la fourmi, de l'acacia, comme quoi il faut de tout pour faire un monde.
Ah, il est intarissable, la Marc Kravets. D'ailleurs, on peut prolonger le bonheur, Valérie.
Exactement.
Avec ce recueil de chroniques signé Marc Kravets. Ça s'appelle tout simplement Portrait d'animaux. Et c'est aux éditions du Sonneur. Et on vous met bien sûr toutes ces coordonnées sur FranceBleu.com. Vous trouvez Planète Bleue dans les plus de l'info. Et c'est que du bonheur, ce bouquin.
Ah, complètement. C'est vraiment un régal.
Comme de vous retrouver. Donc, rendez-vous samedi prochain. On continue à parler environnement. Hein, on compte sur vous, Valérie.
Ah, c'est promis.
Allez, bon
à la
week-end.
Semaine prochaine.